Bonjour à tous. En attendant que les dernières personnes nous rejoignent, je vous propose de faire une inspiration profonde et d'expirer tous ensemble. Et on recommence. Donc, avant de démarrer, je voulais savoir qui je connais déjà qui est dans la salle. Vous levez où la main ? D'accord, deux personnes seulement. Et puis, ma fine équipe, Claire, Alix et Annie, qui seront là aussi pour vous renseigner. Donc, pourquoi réintégrer notre optimisme ? Je vais vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Finalement, je crois qu'il n'y a que ça à faire dans la vie. Être en joie et dans l'amour. Voilà, évidemment, la vie, c'est pas ce qu'elle nous présente toujours, en début de vie en tout cas. Et pour ceux qui ont encore quelques soucis à régler dans la vie, sachez qu'on y arrive. On y arrive. Donc, je vais vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Ce que nous proposons maintenant, justement, du fait, voilà, ce qui m'anime et ce qui anime aussi les personnes qui sont là, les trois femmes dont je vous ai parlé. On est quatre femmes dans l'équipe là ce jour et un homme qui est en train de nous rejoindre. Donc, ce n'est pas fermé aux hommes du tout. Et voilà. Après mon parcours qui est important par rapport justement à la façon dont j'ai compris la vie, qui est à l'opposé de ce que j'avais compris à mon début de vie. Ce qu'on propose maintenant et ce qui m'anime, c'est de transmettre ça, parce que je me dis, si j'avais compris tout ça de plus tôt, eh ben, j'aurais été heureuse plus tôt. Donc, je peux dire que ça fait 8 ou 9 ans maintenant que je suis heureuse sans raison et qu'avant, ma vie était vraiment difficile. En tout cas, je l'ai perçue comme difficile. Et maintenant, avec le recul, je me dis, en fait, c'était un vaste jeu, tout ça, et pour m'en faire arriver là. Voilà. Donc, à l'origine, je suis docteur en pharmacie. J'ai pas perdu mon diplôme. Je suis toujours pharmacienne. Et j'ai travaillé une vingtaine d'années, 18 ans exactement, salariée dans l'industrie pharmaceutique en gestion de projet international et en réglementaire, c'est-à-dire l'aspect légal des médicaments. Donc, vous avez tous entendu parler de l'affaire Mediator à la radio. J'ai travaillé chez Servier, d'ailleurs, c'était ma première société. Et j'étais en production à l'époque. Voilà, les personnes qui ont été au tribunal, c'est justement les gens qui étaient aux affaires réglementaires. Donc, si j'avais été chez Servier, je me serais retrouvée probablement au tribunal. Voilà, c'est des gens qui sont garants du respect des lois et de l'éthique dans les laboratoires pharmaceutiques. Et donc, je fonctionnais en mode cartésien binaire à l'époque. Et comme je faisais du droit international, j'étais quand même surprise parce que les textes de loi en Europe sont en anglais, c'est les mêmes d'un pays à l'autre, et je m'apercevais qu'ils pouvaient être interprétés de façon complètement différente d'un pays à l'autre et même des fois au sein d'un même pays en fonction des commissions et des personnes. Donc je ne comprenais pas pourquoi. Et puis j'ai commencé à comprendre que la culture du pays intervenait, puis en fait au-delà de la culture du pays, c'est la culture des personnes. Et que c'est bien pour ça qu'il y a des commissions souvent pour donner des agréments, parce que comme ça, il y a plusieurs personnes qui regardent, qui ont un regard différent, et l'ensemble fait quelque chose de cohérent. Donc, pour la petite histoire, j'ai fait mes études à Paris 5, qui s'appelle René Descartes. Donc, en effet, j'étais un peu plus cartésienne, élevée par une famille cartésienne, et je croyais que ce que je voyais, donc ce que je ne voyais pas, ça n'existait pas, à part que j'étais obligée de constater qu'il se passait autre chose, mais sans pouvoir l'expliquer. Voilà, tout ça jusqu'au septembre 2001, où je ne me suis pas trop posée de questions. Dès que je voyais ou je percevais quelque chose d'autre que les procédures, les textes de loi, etc., je me dis, en fait, je dois dysfonctionner. Et le 11 septembre 2001 est arrivé, et l'attentat des tours new-yorkaises a eu raison de ma carrière directement, parce que la société qui m'employait a coulé. Nous devions récupérer notre chèque de financement 2 jours après, le 13 septembre, tout était prêt à la signature. Donc évidemment, nous n'avons rien eu. Et je me suis retrouvée au chômage contre toute attente. Et donc, d'une vie très active, j'ai commencé à penser. Et j'ai fait un bilan professionnel, juste parce que j'avais entendu parler d'une personne qui me paraissait originale. Moi, j'ai toujours aimé les gens originaux qui sortent de l'ordinaire, qui ont une autre façon de penser. Cette femme était médecin, enfin est médecin, elle est à la retraite maintenant et elle vit à l'étranger. Elle m'a tout de suite dit, mais vous êtes mais complètement trompée dans votre vie professionnelle. Comment pouvez-vous faire, du droit pharmaceutique? Je ne comprends même pas. Vous êtes super créative. Je vous vois psychologue. Filez au CNAM, vous inscrire en psychologie du travail. C'est le plus court chemin et probablement que vous ferez quelque chose d'autre après, mais je ne sais pas. Donc, je suis partie me renseigner et le hasard faisant bien les choses, maintenant, je sais ce que c'est les synchronicités. Les inscriptions annuelles clôturaient 2 jours après. Donc, j'ai dit, OK, je n'ai pas le temps de penser, donc je m'inscris, on verra plus tard. Et donc, le on verra plus tard, ben, en fait, si on m'avait dit que je devais refaire un bac plus 5, j'aurais dit non, c'est impossible. Et ben, en fait, je l'ai fait, c'est-à-dire entre 2003 et 2007, j'ai refait 5 ans d'études via le CNAM. Les 3 premiers mois, je me suis dit, c'est vrai, ces psys sont quand même un peu fous. Et en fait, au bout de 3 mois, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monde à côté duquel je suis passée pendant si longtemps? Et j'ai commencé à mettre des mots sur ce que, en fait, j'ai toujours senti et que j'ai écarté parce que ce n'était pas dans la logique scientifique. Donc, j'ai toujours, en 2003, voilà, ça m'a ouvert. Je suis tombée dans la marmite d'Astérix. J'ai plus envie d'en sortir et j'ai plutôt envie de partager cette marmite avec tous ceux qui ont envie. Et j'ai creusé, voilà, à la recherche de preuves scientifiques, tangibles, de tout ce que je ressentais, parce que mon ressenti corporel s'est complètement développé au fur et à mesure. Et j'en arrive à la conclusion à ce jour que ce qu'on voit du monde, c'est les 20% du dessus de l'iceberg. Et le monde fonctionne par les 80% d'invisibles, mais qu'on peut sentir, qu'on capte par nos 6 sens, intuition comprise. 8 sens pour certains qui parlent des 8 sens. Donc en parallèle, en 2003, j'ai créé ma société, qui est une SARL. Et puis j'ai commencé à faire des missions, donc tant dans l'industrie pharmaceutique, puisque je pensais que je ne savais rien faire d'autre que de la gestion de projet. Et puis en parallèle, je développais mon activité de psychologue et de coach, puisque j'ai aussi fait des études de coaching en parallèle. Alors quand je dis toujours, quand j'ai fait mes études de coaching, c'est comme si j'allais faire mes courses chez l'épicier du coin et que je rentrais tout à coup chez Leclerc, Auchan, Carrefour. Je dis, oh, mais toutes ces techniques qui existent et en plus ça marche. Alors quand ça, je dis ça marche, c'est-à-dire que mentalement, je ne comprenais rien et je voyais que ça me faisait un effet dans mon corps. Je dis, là ils m'ont eu. Qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Et ça a été ma quête incessante, c'est qu'à chaque fois qu'on m'avait mentalement, entre guillemets, j'allais faire une séance sur moi avec un praticien, et si ça marchait, j'allais apprendre. Voilà. Donc au-delà de la fac et de Paris 8 pour le coaching, j'ai appris, et j'ai appris avec des profs en particulier, et puis j'ai commencé, quand j'ai vu que ça marchait si bien. Mes 2 premiers clients, pour la petite histoire, c'était mon ex-mari. Je lui étais complètement cinglée, je ne vais rien voir. Et je trouve un secret de famille. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et mon ex-DRH. Alors là, je me dis, là, si je me trompe, je suis grillée dans toute l'industrie pharma. Et le soir même, elle se réconcilie avec ses filles, 3 jours après avec le mari. 2 mois après, plus de soucis, ni de boulot, ni de sous. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai commencé à aller voir l'inventeur de la méthode allemand, donc alias Constellation Familiale, Bert Hellinger. Et puis après, un jour, j'ai rencontré une femme en Suisse qui couplait chamanisme, travail des auras, constellations. Je lui ai dit, je veux apprendre ça tout de suite. Je vous fais venir en France, je réunis un groupe de formation. S'il vous plaît, venez nous former. Donc, elle est venue 18 mois. Et un jour, évidemment, on rencontre plein de gens super, hein, comme vous devez rencontrer dans ce salon. Et je vois une de mes amies de formation qui revient, 10 kilos de moins, 10 ans de moins, super lumineuse. Et je lui dis, mais tu sors d'où? Et elle me dit, je viens de faire une cure ayurvédique. Je lui dis, mais c'est où? Elle me dit, c'est au Sri Lanka. Alors moi, qui n'étais jamais sortie toute seule d'Europe, j'ai dit, ben là, il faut que j'aille au Sri Lanka. La motivation est trop forte, donc je veux l'adresse, je pars. Donc me voilà partie en 2009. Donc voilà, depuis 2009, j'arrête pas de faire des voyages dans d'autres continents. Donc le Sri Lanka, l'Inde, j'ai fait plusieurs cures ayurvédiques tous les ans, avec la ferme intention d'essayer de comprendre des médecins indiens, leur vision du monde de la santé. Hein, vous avez compris, la santé m'a toujours passionnée. Hein. Et en théorie, je savais théoriquement tout, puisque j'avais appris le corps humain à la fac de pharma, les plantes, les huiles essentielles. J'avais appris l'énergétique en prana healing et en reiki avec des praticiens en France qui étaient formés à l'étranger aussi. Hein. Et donc les Indiens me disaient, tu poses trop de questions. Mais néanmoins, j'en savais suffisamment, j'avais posé suffisamment de questions pour faire les liens, pour commencer à faire les liens. Et puis l'an dernier, je me suis dit, après tout, pourquoi pas, j'écris à Deepak Chopra. Alors pourquoi Deepak Chopra? Parce que qui connaît Deepak Chopra? Donc Deepak Chopra, c'est un médecin indien qui doit avoir à peu près 70 ans à ce jour, qui a l'air d'en avoir 50. Donc il est médecin indien, et puis après ses études de médecine en Inde, il est parti aux États-Unis, il a repris ses études, et les médecins américains, donc occidentaux, je crois qu'il est neurologue et endocrinologue, et puis il a couplé les deux, les techniques ayurvédiques ancestrales et la médecine occidentale. Et ce qu'il a fait de bien, c'est que quand on va en Inde, on apprend les cures ayurvédiques, mais avec les plantes de là-bas, qu'on ne trouve pas chez nous. Et lui, il a fait le pont avec les plantes occidentales. Et donc là, en fait, je suis la deuxième enseignante certifiée du Chopra Center après 30 jours à peu près que j'ai passé en Californie sur un an, en 5 ou 6 fois, et une semaine d'enseignement en anglais que j'ai faite cet été devant son équipe. Et là, pour moi, c'est un bonheur parce qu'en fait, je me suis dit, je ne suis pas folle. Je suis arrivée à la bonne conclusion. Chopra avait déjà démontré tout ça. Avant Chopra, en fait, l'Ayurveda, ça fait quand même 6000 ans. Donc, ça fait quand même 6000 ans que ça existe dans les civilisations ancestrales. Il faut juste sortir d'Europe. J'ai entendu des gens, d'ailleurs, me dire « Laisse tomber, c'est un blanc, il ne comprend rien. » Donc, en effet, il faut quand même savoir que déjà, rien que l'Inde et la Chine, donc la médecine chinoise dérive de la médecine indienne. Ça fait quand même quoi, un quart ou un tiers des habitants de la planète. Donc, en gros, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique. Il faut que je parle plus fort ? C'est mieux là ? D'accord, merci. Et donc, en fait, c'est vraiment toutes ces civilisations ancestrales ont compris ça depuis des millénaires, même les Égyptiens et même les Grecs à l'époque. Hein, et nous avons perdu ça. Alors, peut-être qu'on fait partie des meilleurs au niveau scientifique, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut oublier notre nature d'animal humain, comme je dis, ou les civilisations ancestrales. Et donc, en associant les deux, on arrive à faire... Alors, je ne dis pas des miracles, parce qu'en fait, maintenant, tout est prouvé scientifiquement, c'est ça qui est super, mais ça ressemble à des miracles. Donc, ce qu'on fait à ce jour, nos clients, c'est des entreprises, parce qu'évidemment, je viens du monde de l'entreprise, et je me dis, quand je vois comment est devenue l'entreprise, c'est bien dommage qu'on n'entende pas, on n'intègre pas ces éléments. D'autant que je suis quand même psychologue du travail. Donc, psychologue du travail, c'est travailler sur la souffrance au travail, etc. Mais je me suis dit, moi, un jour, si je travaille sur la souffrance au travail toute la journée, ça va pas m'aller, quoi. Je vais souffrir moi-même. Et puis, je dis toujours, j'ai la chance... Alors, je dis ça maintenant. Hein, j'aurais pas dit du tout sur le coup parce que j'ai failli passer. J'ai la chance de faire un burn-out où j'ai été un légume pendant 6 mois. J'ai cru que ça allait être fini pour moi. D'ailleurs, ma collègue est décédée, elle, d'un cancer. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire qu'un burn-out. Ça donne une deuxième chance. Et j'ai eu 2 ans d'arrêt de travail. Et je dis, le burn-out, j'ai toujours appris 3 fois. Une fois en psycho du travail, une fois sur moi, et une fois en psychopathologie du travail, ce qui me permet d'en rentrer, d'être dans le réseau souffrance et travail certifié par le ministère du Travail. Et en fait, ce burn-out, d'abord, pourquoi on dit que ce n'est pas une maladie, en fait ? Parce que ça ne se soigne pas avec des médicaments. Peut-être que les effets secondaires du burn-out, dépression, etc., mais le burn-out lui-même n'est pas une dépression. Les médicaments ne servent à rien là-dedans parce qu'en fait, c'est quand on a, par rapport à notre chemin de vie, on est à l'ouest de son chemin de vie, en mode accéléré, c'est comme un moteur de voiture que vous lancez à toute vitesse, il y a un grain de sable quelque part, si vous roulez très vite, ça explose, si vous roulez lentement, ça n'explose pas. Donc comme on est dans un monde de travail qui s'accélère, tout le monde explose à droite à gauche parce qu'on n'est pas aligné avec notre chemin de vie. Donc, là où c'est une deuxième chance, et pour ça que je dis que c'est une chance, le burn-out, c'est que ça nous oblige, d'abord c'est un temps d'arrêt, on ne peut pas faire autrement, on ne peut plus réfléchir, et on est obligé de se poser la question de mais qu'est-ce qu'on veut vraiment, quoi ? Voilà. Et ce qui fait que les gens sont motivés, engagés dans l'entreprise, d'ailleurs, c'est parce que le projet que l'entreprise leur propose est en accord avec l'avancement sur leur projet de vie à eux. Mais évidemment, personne ne nous explique ça. Alors, je vais en parler au passé parce que maintenant j'enseigne ça au Master de Pharma à Paris 11, mais personne ne nous explique ce qu'on vient chercher dans le travail. Évidemment, on ne vient pas chercher qu'une feuille de paie, on vient surtout chercher à se réaliser. Et puis, au fur et à mesure que du travail sur moi, ça, je crois que le burn-out, c'était vraiment le summum. De toute façon, comme j'étais sur le point de mourir et que j'avais déjà ma collègue qui était morte sous mon nez, j'étais super motivée. Hein. Je l'ai fait en 2012, pour vous donner une idée. Hein. Donc, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, j'étais arrêtée entre 2012 et 2014. Du coup, j'ai commencé vraiment à approfondir toutes ces histoires d'énergétique. Et puis, au fur et à mesure, ma sensibilité s'est développée. Et alors là, il y a deux avantages au burn-out. Le premier, c'est un, je ne peux plus du tout faire mon ancien boulot, bien que j'étais excellente et reconnue internationalement. Bon, ça, c'est un avantage pour moi, peut-être pas pour l'industrie pharma, mais parce que ce n'était pas du tout mon chemin de vie. Et comme ça, au moins, je ne le fais plus du tout. Et l'autre avantage, c'est que moi, qui étais très, très dans le mental, je ne peux plus l'être. D'ailleurs, dès qu'il y a une activité mentale, ça vrille là-haut, je sens que je suis au bord de l'AVC. Ça m'a ancré, incarné, j'ai l'énergie qui est descendue, ça m'a développé mon ressenti corporel. Et donc maintenant, quand je suis en séance et je suis obligée de faire attention dans ma vie de tous les jours, de me fermer en sens plutôt de m'ancrer, pas trop sentir, parce que j'ouvre en fait tous mes chakras, tous mes ressentis, et je sens dans mon corps ce qui se passe dans le corps de l'autre, même si l'autre ne sent pas. Donc juste, j'utilise mes neurones miroirs en fait, donc nous le transmettons aussi, comment utiliser vos neurones miroirs. Et à partir de là, je peux questionner. Donc, ce qui explique que certains de mes clients qui venaient pour des accompagnements de transition de vie ou trouver ce boulot me disent « Tiens, bah, depuis que je t'ai vu, en fait, je ne fume plus. » Et puis une autre, elle n'est pas là, Christine. Non, j'avais demandé de venir. Christine, elle dormait sous morphine H24. Et puis après une séance, elle s'est levée, elle me dit « Ton matelas, il est super, je vais partir avec parce que j'ai plus mal. » Je pense que le matelas, il est pour rien. Voilà. Et puis l'avant-dernière en date, c'est une femme qui avait un cancer en phase terminale. Et en travaillant sur ses trois corps, donc physique, psychique et émotionnel ou énergétique, sachant que la première couche, c'est les mémoires de ce qu'on a vécu, la deuxième des parents, des grands-parents, tout le transgénérationnel, des cultures, des peuples dont on est issu, jusqu'à ce qu'on soit connectés tous à l'univers. Vous savez qu'on est tous une parcelle de cet univers, chacun dans un corps spécifique qui fait à la fois notre limitation, parce qu'on n'est que dans ce corps-là, et aussi notre richesse, parce que dans ce corps-là, il n'y a que nous qui y sommes, et donc il n'y a que nous qui avons cette vision originale. C'est pour ça que c'est intéressant d'être en collectif, pour associer ces visions originales. Et ben, son cancer du foie, en fait, donc elle faisait ses traitements, bien sûr, hein, à l'hôpital de chimio, etc., hein, ce que je fais, n'annule en rien les traitements médicaux. Enfin, c'est un complément. Hein. C'est vraiment, on va dire, la psychosomato très profonde, en rajoutant toutes les mémoires, jusqu'aux mémoires karmiques et au-delà pour ceux qui y croient. Son cancer du foie, je lui ai dit, écoute, le foie en médecine chinoise, c'est la colère. Qu'est-ce que tu as comme colère dans ta vie, comme source de colère dans ta vie ou ton transgénérationnel? Donc, elle s'était mariée avec un pervers manipulateur qui avait un peu pourri sa vie. Et puis, elle avait un père qui avait fait la guerre d'Algérie. Et on sait que, de toute façon, toutes les guerres nous plombent. Comme je dis toujours, entre les deux guerres mondiales, on en tire tous des couches. On le dit d'ailleurs dans le langage français. Et donc, voilà. À la guerre d'Algérie, il y a eu énormément de tabous. C'est pas très bien ce qui s'est passé. On sait juste qu'il y a eu des horreurs, des deux camps. Il n'y a pas un pour récupérer l'autre. Et donc, les gens ne parlent pas tellement ils sont sous le choc, ceux qui rentrent de la guerre. Et en fait, on le transmet. On le transmet comment? Parce que si on est en état de choc, on ne respire plus. Vous savez, quand on vous annonce une nouvelle, vous êtes comme ça. Et les gens dans notre environnement, comme les neurones miroirs sont à l'œuvre et que les corps se synchronisent automatiquement, eh ben, ils récupèrent cet état de choc à leur insu. Donc même quand on dit « Qu'est-ce qu'il y a? T'entends pas ?» Je hausse la voix. Attends. Et si je parle comme ça, c'est mieux? Faudrait demander à la personne qui s'occupe du son d'augmenter le son, peut-être. Est-ce que vous m'entendez mieux, là, si je suis comme ça? Ça va, là? Donc, on a travaillé sur... Alors, le propre de nos séances, c'est qu'elles sont... c'est comme si on lançait la métaphore, c'est comme si on lançait une balle, hein, qui est la métaphore de votre inconscient. Ça, c'est juste pendant la séance. Et après, la balle, elle fait sa course pendant 3-4 semaines derrière. Donc, notre protocole, c'est une séance par mois d'une heure, 1h30 maxi pour la première séance. Et donc, elle est venue en mai, il y a 2 ans et demi. Les médecins lui avaient dit, de toute façon, dans 2 mois, vous êtes morte, donc on ne fait plus rien sur vous. Mais, juin-juillet, elle fait une séance, son cancer du foie métastasé partout régresse en angiome du foie, c'est-à-dire en tumeur bénigne, preuve à l'appui. En octobre, plus rien. Donc, le cancérologue dit, mais qu'est-ce que ça marche bien sur vous, la chimio? Il dit, je vous ai dit que je n'ai pas fait que de la chimio. Du coup, ils lui ont opéré de son kyste potentiellement mortel à l'ovaire en décembre. Et en janvier, après 3 semaines d'analyse, ils lui ont dit en fait, on ne peut plus vous opérer du cancer du sein parce que de 6 cm, il est passé à 1 cm, il est trop petit. Voilà, à ce jour, cette femme est bien vivante. Elle est en vacances chez des amis. Je lui avais demandé de venir, mais elle est voilà, à Perpignan aujourd'hui. Et elle m'a dit qu'elle voulait témoigner publiquement là-dessus, tellement elle est enthousiasmée. Non, je ne fais pas de Reiki, je fais du prana. Le prana, c'est on travaille sur les auras à 3 mètres et on regarde ce qui se passe dans les différentes couches. Donc, c'est au-delà du Reiki. Alors, quand j'ai fait ma formation en Reiki, justement, il y avait une femme qui travaillait en prana. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est n'importe quoi. Ça, au moins, c'est du tangible, à quelques centimètres de la peau. Et puis, bah, maintenant, je fais comme elle. Je suis pire qu'elle, peut-être, probablement. Donc voilà, elle est bien vivante et elle se porte comme un charme. Et les mêmes médecins qui avaient dit qu'elle serait morte lui ont dit qu'elle était guérie. Donc comme quoi, voilà, le psychisme influe beaucoup. Et d'ailleurs, quand on regarde les notices de médicaments, par exemple dans la dépression, c'est écrit en toutes lettres. OK, vous prenez vos antidépresseurs, mais en même temps, vous devez faire une psychothérapie. Voilà, les médicaments ne résolvent pas tout. Heureusement qu'ils sont là, hein, parce que quand on a un panarique comme j'avais à mon doigt, là, j'ai mis une bonne crème antibio. Mais voilà, après, à moi de voir qu'est-ce qu'il raconte mon doigt et pourquoi il fait un panari régulièrement. Je ne suis pas mieux que les autres, hein, je vous rassure, parce que moi, je ne me vois pas de l'extérieur. Hein, le principe, c'est de voir les personnes de l'extérieur. Donc moi, je suis dans mon bazar de mémoire qui est autour. Et donc le principe, c'est qu'il y ait quelqu'un de propre et d'aligné, entre guillemets, qui me regarde de l'extérieur ou qui vous regarde chacun de l'extérieur, et qui sache se connecter à l'intérieur, à mon intériorité, parce que moi, je me suis... on s'adapte tous en fonction de nos douleurs. Voilà. On est tout le temps en équilibre. Notre corps est un équilibre. Par définition, les équilibres sont instables et se réajustent constamment. Et puis après, ben, ça fait des réactions en cascade. Donc, ce qui m'anime, vous avez compris, c'est de transmettre tout ça. Je me dis, comment peut-on être dans un pays si fabuleux au niveau scientifique et écarter de notre raisonnement tout ce qui se passe en dehors de l'Europe? C'est juste pas possible, quoi. Alors, avant, je n'osais pas en parler. Ça fait quand même 10 ans que je fais ça. C'est la première fois que je fais le Salon Zen et que je fais une conférence comme ça en public. Parce qu'il m'a fallu vraiment être sûre que voilà, ce n'était pas des divagations. On entend tellement de choses que certains psys mettent des faux souvenirs dans la tête des gens, etc. Tout ça, c'est... Bon, peut-être ça existe, mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas le cas. Et donc, en me formant à l'EMDR, d'ailleurs, je fais partie du conseil d'administration de l'association EMDR, chez Chopra, j'utilise quand même ce que j'ai appris en psychologie, bien sûr, en systémique, en transgénérationnel, en prana. J'utilise aussi l'astrologie karmique. Pourquoi ? Parce que c'est une façon de modéliser les énergies qu'on porte et tous les thèmes sont parfaits en ce sens qu'ils ont à la fois le problème et la solution. Le problème de l'âme, ce qu'elle est venue résoudre sur cette terre, et la solution, donc ça permet d'aller plus vite. Pour moi, c'est en rien une programmation puisqu'on peut tout dépasser. Après, les problèmes, des fois, on ne peut pas les éviter, mais c'est la façon de les prendre qui fait qu'on souffre ou qu'on ne souffre pas. Donc, ce qui m'anime, bah, c'est de le transmettre. Donc là, j'ai la chance d'avoir mes trois groupies, Karine, Anne, Annie et Alix, hein, qui sont là, qui ont fait partie de la première formation. Alors j'appelle ça formation parce que c'est remboursé par, c'est pris en charge par les OPCA, etc. Mais ce n'est pas une formation au sens formatage, c'est plutôt une transformation intégrative. Donc dans la dynamique intégrative du travail, pourquoi ? Parce que c'est comprendre qu'on est tous dans un système, toujours, même quand on est tout seul, en fait, on appartient au système de l'entreprise ou au système familial, où voilà, on est porte de Champéret, on n'est pas au fin fond de la Creuse, il y aurait peut-être moins de monde, etc. Et on est tous soumis à des forces constamment, on est tous en interaction. Donc comme nos auras rayonnent sur 2-3 mètres, vous voyez bien que là, vous êtes dans les auras de plusieurs personnes. Donc, quand on dit de quelqu'un, je le sens ou je le sens pas, ben, en fait, c'est un vrai fondement scientifique. Par exemple, quand on jette une pierre dans l'eau, vous voyez bien que ça fait des ondes. Et ben, dans l'air, c'est la même chose. Donc, les physiciens quantiques, c'est ceux qui sont en train de nous ouvrir le plus à ce jour. Donc, les ondes, les mots, tout ça, c'est des vibrations, les sons. Et on voit bien d'ailleurs avec le brouhaha ambiant, en fait, ça annihile, enfin, ça réduit le son du micro là-bas. Et donc, c'est tellement vrai qu'il y a des informaticiens qui m'ont dit récemment que dans les nouvelles études, alors je ne suis pas informaticienne, hein, donc il y en aura peut-être qui pourra me corriger au niveau scientifique, mais en ce moment, ils sont en train d'essayer de développer des ordinateurs qui marcheraient à distance par la pensée. Donc voilà, on sait maintenant que l'univers est un champ vibratoire, que chaque son est une vibration, que les auras, en fait, ce sont les vibrations de ce qu'on dégage. Notre cœur a été mesuré, les battements de notre cœur peuvent se sentir, envoyer un champ électromagnétique jusqu'à 200 mètres. Ça a dû tous vous arriver de penser à quelqu'un et que la personne vous appelle et vous dites « Ah, mais je voulais t'appeler, je pense à toi ce matin. » Et puis en fait, l'autre a déjà reçu l'information et vous a appelé. Voilà. Donc moi, je trouve qu'on vit une époque fabuleuse parce qu'en fait, la science est en train de prouver ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis des millénaires à droite et à gauche. Et nous, notre spécificité, c'est que cette dynamique de vie qu'on transmet soit dans le travail, soit dans l'équilibre de vie tout court, soit dans la santé, soit même pour développer votre intuition, etc. Parce que tout ça, c'est les mêmes prismes, en fait, c'est juste des objectifs différents. Eh bien, on vous le transmet en vous donnant toutes les études scientifiques qui vont bien, les lectures, etc., qui sont infinies et exponentielles en ce moment. Il y en a beaucoup qui sont à l'étranger. Hein. Alors, il y a de plus en plus de choses qui sont traduites. Bon, des fois, il faut lire l'anglais, mais ça, c'est pas grave. On vous donne les éléments. Et surtout, on vous permet d'intégrer. Quoi. C'est pour ça, ça s'appelle ça transformation intégrative. Souvent, on dit les formations, on n'utilise que 10% après. En fait, sur 3 jours de formation, on fait une demi-journée de contenu, on va dire, grosso modo. Et tout le reste, c'est de la pratique pour que votre corps, il sache. Quoi. En fait, notre corps, il sait tout. Et c'est tout, mais on ne sait pas l'écouter. Et pourquoi on ne sait pas l'écouter ? Parce qu'on est éduqué de toute bonne foi par des parents, par des cultures, par une école, enfin, les universités, des études diverses et variées, et à mettre des mots sur ce qu'on voit. Et en fait, dès l'instant que vous lâchez tout ça et que vous vous attachez juste à votre ressenti, vous pouvez mettre d'autres mots. Et c'est pour ça que ça m'a toujours passionnée d'aller à l'étranger, parce qu'à l'étranger, ils mettent d'autres mots. Quoi. Je me rappelle, en 1994, la première fois, je suis allée en Indonésie, mais j'étais folle. J'étais en colère pendant 2 jours. J'ai dit, mais c'est pas possible, ce temps élastique, c'est simple, on avait loupé notre correspondance, on n'avait plus d'hôtel en arrivant, parce qu'ils faisaient du surbooking. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est juste hallucinant. Quoi. Ces gens, ils fonctionnent à l'envers de nous en France, et ils arrivent aussi bien que nous, voire mieux. J'ai dit, donc là, il va falloir que je lâche ma façon de penser trop stricte à l'époque. Voilà, donc l'objectif, c'est quoi finalement ? C'est de comprendre que tout ce qu'on récupère, c'est un miroir de nous. Donc finalement, si notre vie ne nous plaît pas, quelle qu'elle soit, les gens qu'on rencontre, etc., c'est nous qui les avons attirés d'une certaine façon. Alors évidemment, je parle au niveau complètement inconscient, on est d'accord. Parce que si vous portez... Je donne un exemple. Si je reste avec cette femme, par exemple, des mémoires de colère, il y a deuxième, troisième génération, quatrième génération, hein, si on se place sur les systèmes de guerre, hein, tellement d'hommes jeunes qui sont morts il y a 100 ans sur le champ de bataille, il y a de quoi être en colère. Ou des gens qui essayent de fumer pour retrouver cette apnée qu'ils ont vécue en étant gazés. Hein. Je ne dis pas que la cigarette, c'est toujours ça, mais c'est souvent ça pour les patients que j'ai vus. Hein. Alors, comme on récupère aussi des patients qui sont un miroir de nous... Voilà, je ne ferai pas une généralité de ce que je vois. Eh bien, en fait, il suffit, entre guillemets, de changer l'énergie qu'on dégage et il va se passer autre chose. Et c'est pour ça que la méditation a tellement le vent en poupe. Donc, j'ai eu la chance d'animer une méditation par jour. J'en ai encore une cet après-midi et une demain pour ceux qui veulent venir. Parce que la méditation, ça nous permet de sentir ce champ électromagnétique terrestre qui nous traverse et de changer notre rayonnement. La seule différence entre ce qu'on fait et la méditation, c'est qu'on a un effet extérieur. Donc la méditation, c'est vous avec vous-même, mais des fois, ça va plus vite quand vous avez aussi une aide extérieure. Et nous, on peut le faire en individuel, en groupe, et encore une fois pour les entreprises. Donc ce qui me permet d'intervenir donc, dans le champ des organisations, donc les gens sont toujours scotchés, comment tu arrives à faire des trucs pareils en entreprise ? Ben justement parce qu'il y a les fondements scientifiques derrière. Et comme je suis scientifique et que j'ai travaillé en entreprise, les gens me disent souvent, mais une autre que toi nous raconterait ça, on se dirait, non, elle disjoncte. Mais toi qui as été garant du respect des lois et de nos études scientifiques, si tu dis ça, il doit y avoir quelque chose de vrai. Mais dans le fond, on ne raconte pas tellement de choses différentes de ce que vous verrez sur d'autres stands. C'est juste qu'on l'a vraiment relié à tout ce qui se dit dans les techniques. Vous voyez, je suis obligée de faire ce mouvement qui vient parce que c'est vraiment ça, créer du lien et du sens entre les signaux faibles Donc laisser tomber cette fameuse règle des 80-20, on dit qu'il faut passer 20% de son temps pour avoir 80% de résultats, c'est exactement l'inverse. C'est regarder les petits signaux faibles et les petits facteurs de changement, des détails sur lesquels on ne prête pas attention, qui vont en fait nous guider vers un réajustement de notre chemin de vie, de nos souhaits, etc. Parce que si on ne les écoute pas, en fait la vie est un long fleuve tranquille hein, qu'on ne voit pas, et on passe notre temps à prendre des chemins de traverse, hein, et en fait, on est bloqué. Alors au début, c'est des petits blocages. On se dit, je vais persévérer. Puis ça donne des schémas de répétition qui se durcissent avec le temps, puis qui vont produire de la fatigue, des symptômes physiques et psychiques, voire des maladies chroniques et voire pire. Et c'est dommage parce qu'on peut renverser complètement une vie dramatique en tout à coup quelque chose de merveilleux. Voilà. Et c'est pas du tout du... Il s'agit pas de miracle, il s'agit juste d'une compréhension de ce qui nous traverse. Voilà, donc j'ai la chance. D'abord, si je suis au Salon Zen, je veux rendre hommage à mes collègues, parce que c'est grâce à elles que j'ai osé faire ce salon, parce qu'il fallait bien être plusieurs. Ces collègues, en fait, elles m'ont choisi. Nous, nous sommes choisis pour faire la formation. Ceci est grâce à elles que j'ai lancé cette formation, parce qu'elles m'ont dit, en fait, on veut que tu nous formes, on veut apprendre ce que tu fais. Donc, non seulement j'ai lancé cette formation, qui font partie de notre première promo, mais au lieu de faire leur mémoire de fin de formation, parce que j'ai envie que ça soit un jour un diplôme, elles m'ont dit non, on ne va pas faire de mémoire, en fait on veut écrire un livre avec toi. Donc nous sommes en train d'écrire un livre à quatre et de continuer à expérimenter sur nous-mêmes les interactions de groupe et les réajustements constants, c'est-à-dire que tout seul on va vite, mais à plusieurs on va plus lentement mais beaucoup plus loin, et on s'enrichit en plus des visions des uns des autres. Elles ont continué, elles me poussent en fait, mais je les écoute. Me disent, en fait, maintenant, ce qu'on veut, c'est co-animer avec toi. Donc, je dis, très bien. Déjà, Stéliac, c'était un réseau, mais OK, moi, je vous fais monter en puissance. Et voilà, l'idée, c'est... Elles sont tellement enthousiasmées, on partage tellement cette même dimension, elles pourront parler si elles ont envie, hein, que l'idée, c'est de faire cette espèce de spirale d'entraînement et de transmettre cet optimisme à droite et à gauche, parce qu'au niveau émotionnel, c'est en mode on-off. Soit on est optimiste dans sa créativité, dans son intuition, etc. Soit il y a quelque chose qui nous freine. On a des petits boulets au pied qui fait qu'on se plaint, qu'on critique, qu'on râle, qu'on n'est pas toujours au top de notre forme. Et il suffit, quick, de couper les petits boulets. Et puis, c'est parti. Donc, voilà, nous, on s'observe. Hein. Puis alors, elles ne me font pas de cadeaux, je peux vous dire. Hein. Parce qu'elles me voient de l'extérieur, elles ne gênent pas pour me raconter ce qu'elles voient de moi, que moi, je ne vois pas. Donc... On grandit mutuellement. J'ai d'autres choses à dire, Annie ?
J'ai pas trop l'habitude des micros, donc je suis un peu impressionnée. Je vais rester à ma place, comme ça je vais pas vous regarder. Vous viendrez me voir plus tard. C'est vrai. Donc non, venez nous voir au stand J1. Hein. Donc en fait, nous, c'est du vécu. Moi, je l'intègre avec Catherine parce que en fait, elle mettait des mots sur ce que moi, je vivais au boulot, en fait. Donc, c'est pas facile de le dire en public. Mais quand j'ai rencontré Catherine, c'était sur un lieu de vacances. Donc, c'était pas du tout dans le monde professionnel. Et en discutant avec elle, j'ai fait un atelier sur le discernement et l'intuition. Donc, je sentais des choses dans mon corps, mais je voulais vraiment les interpréter. Savoir qu'est-ce que je pouvais en faire et où je pouvais aller. Vous m'entendez ? Ouais, plus fort. qu'est-ce que je pouvais en faire et qu'est-ce que je... Comment je pouvais m'en servir pour aller plus vite ? Parce que j'étais tellement mal, on me faisait des reproches, des choses comme ça. C'était certainement parce que je devais moi aussi dépasser ça, en fait. Comment ça se passe dans un monde professionnel ? Comment on peut le vivre pour que tout le monde aille bien dans un milieu professionnel ? Donc bref, j'ai rencontré Catherine. Et au fur et à mesure, en fait, comme dit Catherine, on s'est choisi, on s'est reconnu. Et elle intégrait exactement ce que moi, je vivais au quotidien. Donc, elle mettait des mots. Et en plus, dans sa formation, c'est une formation qui évolue à chaque fois. Avec Alix, avec Anne, on a fait évoluer, on était plusieurs. Et au fur et à mesure de la formation, il y a des gens qui bougent aussi. Donc, ils ne restent pas forcément parce que, dans cette formation-là, parce qu'en fait, leur vie a tellement bougé que ça les impulsait encore plus loin. Donc, ils ne pouvaient pas rester parce que leur vie leur demandait d'aller encore plus loin. Donc, pas rester sur Paris. Il y a une copine, parce que ça devient des copains, des copines. Elle est partie en Corse, elle ne pouvait pas rester avec nous parce que ça l'appelait vraiment, quoi. Donc, en fait, on le vit, on le ressent. On s'entend bien, on rigole bien, on pleure aussi parce qu'effectivement, des changements de vie, c'est pas facile. Faut passer le pas, en fait, faire le petit pont. Et donc, du coup, avec Catherine, eh bien, elle nous apprend, elle nous transforme. On la transforme aussi un peu. On essaie beaucoup et on se transforme. Donc, en fait, au stand J1, donc, nous, on parle avec les gens. On essaie de vendre, mais ce n'est pas trop notre métier. Mais on le vend pas, on veut le transmettre. Donc, on a besoin de communiquer avec les gens, de se connecter avec eux, enfin, avec vous, avec ceux qui viennent nous parler. Pour que, en fait, vous le sentiez. C'est vraiment du ressenti. Après, voilà. Venez nous voir et on pourra en discuter ensemble.
Merci, Annie. Merci. Donc, au niveau timing, on m'a dit qu'on devait quitter la salle à moins 10. 5 minutes avant, il y a une dame qui va nous dire qu'il reste 5 minutes. Donc, moi, ma montre, je pense qu'il doit rester peut-être 10 minutes. Donc, on a le temps pour des questions et des réponses, si vous le souhaitez. Donc, je suis à votre disposition. Ou des commentaires. Là, il y a une dame qui veut... si tu peux lui donner le micro, Alix. Oui, oui, vas-y. Ou sinon, si le fil n'est pas assez long, vous vous lèverez. Attendez, là, il y a quelqu'un qui va parler.
Bonjour. J'aurais aimé savoir ce que vous avez appris avec Deepak Chopra.
Deepak Chopra, il permet...
Parce que l'approche de l'Ayurveda en un mois...
Non, c'est pas en un mois, c'est en un an.
Ah, en un an, d'accord. Donc j'aurais aimé savoir si vous pouviez développer un petit peu plus cet aspect-là.
Oui. Non, je suis allée pendant un an en Californie. J'ai mis tout bout à bout, j'ai passé 30 jours là-bas, mais je suis allée 5 ou 6 fois. Il y avait des webinars, du travail à faire entre, donc on évolue. Quand on va là-bas, c'est juste hallucinant parce que c'est des groupes entre 20 et 350 personnes. Donc, si vous méditez à 350, vous pouvez juste ne pas méditer. C'est pas possible de pas méditer, par exemple. Et ce qui transmet, c'est vraiment l'équilibre de vie. Ayurveda, c'est la science de la vie. Donc, c'est yoga, méditation par rapport à votre type corporel, dosha, corps et esprit. Et la nutrition, l'alimentation, les massages avec telle huile essentielle, telle senteur. Enfin, comment vraiment utiliser les 5 sens pour... vous avez aussi votre mantra personnel. Et donc, ce qui est très drôle, c'est que... Donc moi, quand je suis toujours pharmacienne, mais quand je suis une vraie pharmacienne, entre guillemets, comme je travaillais évidemment sur des bons médicaments, des vrais médicaments, je regardais l'homéopathie un peu de travers à l'époque quand je suis sortie de fac, l'homéopathie, les huiles essentielles, tout ça. Et maintenant, je me suis remise aux huiles essentielles à fond. Je vois la puissance de ces types de produits, les senteurs. Donc l'Ayurveda telle que l'a développée Chopra, c'est vraiment notre équilibre de vie. Donc par exemple, vous donner un exemple très concret. Ça faisait des années que je voulais perdre du poids. J'ai perdu 5 kilos en ne faisant plus rien maintenant. Rien d'autre que manger selon mon type corporel, aux bonnes heures, par rapport à la chronobiologie, la chrononutrition, avoir un rythme de vie qui me correspond, qui n'est pas forcément ce que j'aurais envie de faire, parce que moi, j'adore être dans le mouvement, courir partout, mais j'ai compris que si je fais ça, je m'épuise. Donc, il faut que je mette dans la routine ce que normalement je déteste. Donc, j'arrive à trouver un mixte. Alix, elle connaît bien ça aussi. Et en fait, au fur et à mesure que notre corps change, on le sent. Et même dans la nutrition, pareil, j'adorais la viande. Alors vraiment, manger un steak tartare, il y avait de bœuf, bien sûr. Il n'y avait pas de meilleur délice pour moi à l'époque. Je ne supporte plus le bœuf, quoi. Le thé, c'est pareil, le thé vert. Quand j'ai goûté ça la première fois, je dis quelle horreur, comment peut-on boire du thé vert? Maintenant, je ne prends plus que du thé vert. Enfin, voilà, et c'est comme ça tout le temps, quoi. Donc, c'est vraiment l'équilibre, les massages, les sons qu'il faut écouter. La méditation, c'est méditer aussi 2 fois par jour si on peut. Mais en tout cas, au moins 1 fois par jour, le minimum, c'est 5 minutes, quoi. Juste pour vous centrer. Quand j'ai pas le temps de méditer, je raconte à mes collègues, des fois je suis pressée, donc dans ma salle de bain, je chante mes mantras des chakras, là, mais je me douche pendant ce temps-là, mais je dis bon, c'est toujours ça de pris. Ou alors dans le métro, je fais en silence mes mantras dans la tête et je vois la différence, quoi. Je vois que j'ai perdu du poids, j'ai perdu des rides, c'est quand même cool. Les télomères physiquement, qui sont les bouts des chromosomes, ils rallongent. Et Chopra lui-même, il rajeunit au fur et à mesure des années, quoi. Comme il dit, si ça continue comme ça, au lieu de mourir, il va finir dans l'orgasme de la création de son corps. J'ai répondu à votre question ? Oui, là.
Bonjour, je m'intéresse. Quelles sont les techniques les plus efficaces pour sortir du burn-out? Déjà, je vous félicite pour votre présentation parce que je suis moi-même médecin-chercheur et j'ai un parcours un peu semblable. J'ai fait un burn-out après un harcèlement dans une entreprise, l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est assez dur et je voudrais en sortir. Donc, quelles sont vraiment les méthodes, les techniques les plus efficaces, parce que ce n'est pas du tout une dépression.
Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à cette question comme ça, parce que les techniques, elles marchent toutes, dans le fond. Mais la technique, y a la technique, on va dire, c'est peut-être 20% de l'accompagnement. Et après, les 80%, c'est vraiment la personne qui le fait. Donc, ce que je veux dire, c'est si vous êtes face à un thérapeute tordu, comme je dis, forcément, le résultat ne peut pas être propre sur vous, quoi. Ça va être tordu. Donc, il faut vraiment, aller voir quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance, que vous sentez, là, dans vos tripes, ça vous fait du bien. Alors, comment on sait si ça nous fait du bien? C'est quand vous pensez à la personne ou quand vous la voyez. Vous respirez, et normalement, ça s'ouvre, ça se dilate dans votre corps. Moi, je dis toujours, le moindre petit couac dans le ventre ou n'importe où, même si c'est un micro-couac d'une milliseconde, ça, il faut l'écouter et ça veut dire qu'il y a quelque chose, c'est méfiance. Alors peut-être c'est notre cerveau qui nous raconte des trucs bizarres, donc ça vaut le coup de creuser, bien sûr. Mais donc après, pour moi, les techniques qui marchent, c'est vraiment d'attraper les trois corps, comme je dis, dans les trois structures. Parce que le mental, il raconte des bêtises toute la journée, quelque part, en fonction de notre formatage initial ou même de vie. Je vous donne un exemple, par exemple. À l'époque, donc moi ma vision dans ma famille, c'est que les hommes étaient tous taciturnes. Et évidemment, j'ai un garçon et une fille, et mon fils était taciturne. Donc je me suis dit, bon, ben, j'ai pas de chance, en fait, ça doit être les hommes. Je pense que tous les hommes sont taciturnes. J'en étais arrivée à cette conclusion. Donc ça, c'était une fausse croyance, bien sûr, qui m'arrangeait bien. Et puis un jour, je vais faire un séminaire de constellation familiale, et je tombe sur des histoires de fausses couches. Et moi, j'ai fait 3 fausses couches avant d'avoir mes enfants et j'étais classée comme stérile. Et donc, ça a été mes débuts en énergétique, donc en 96. D'ailleurs, la première fois que j'ai fait une séance d'énergétique, je peux vous dire, j'étais aussi très en colère. Je me dis vraiment, il se fout de ma gueule, ce médecin, c'est pas possible. Et puis, en fin de compte, il m'a quand même maintenu mes 2 grossesses. Donc, mon fils et ma fille ont 17 et 20 ans à ce jour. Et donc, le jour où j'ai fait cette constellation, en fait, j'ai pleuré pendant 24 heures. Et en fait, donc, mes enfants n'étaient pas là du tout. Ils étaient partis en week-end chez leur père, puisque j'étais déjà divorcée. Et mon fils arrive gai comme un pinson le lendemain. Je me suis dit, il a dû passer un super week-end. Et puis, je dis rien. Il se passe 10 jours, je suis toujours gai comme un pinson. Je lui dis, mais qu'est-ce qui te prend là maintenant? Tu chantes? T'es gai? Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, ben non, il ne s'est rien passé, maman. Rien, c'est que je t'aime de plus en plus. Et en fait, moi, d'avoir travaillé sur mes fausses couches, ça avait coupé mes boulets. J'étais fusionnée avec mes 3 enfants morts qui m'ont bombé pendant 10 ans. Ça faisait 10 ans que j'avais perdu. Et en fait, ça l'a dépollué instantanément. C'est ça que je trouve fabuleux. Alors, ma fille, elle me fait mourir de rire parce que régulièrement, elle me dit « Maman, qu'est-ce que t'as fait encore cet après-midi ? J'étais énervée sans raison. Je suis sûre que t'as fait une séance sur toi. » Et en fait, elle le sent. Donc, moi, j'ai pas forcément fait une séance où je sentais l'énervement. Mais comme ça dépollue le transgénérationnel et qu'en même temps, ça dépollue les lignées derrière, les enfants, ils sont instantanément dépollués. Donc, mon fils a un vrai bout en train maintenant. Il passe son temps à faire la fête. Il est DJ à 16 heures perdues quand il n'est pas étudiant. Et ma fille, quand elle a mal de tête, ses copines ou a mal de ventre, ses copines lui disent « Merci ». Lui disent « Tu veux un médicament ?» Elle dit « Ben non, moi, je prends pas de médicaments, je respire. » Voilà. Et je lui ai jamais dit de faire ça. C'est-à-dire qu'elle a intégré sans que je lui donne aucun cours, parce qu'évidemment, elle a un père qui est mais aux antipodes de moi, hyper cartésien comme je l'étais quand je l'ai rencontré à l'époque. Et donc, elle fait la part des choses entre une mère qui a complètement évolué de son cartésianisme, qui est dans cette mouvance, et le père qui est ingénieur, qui est resté dans son cartésianisme. Elle me dit, mais maman, de toute façon, je ne crois pas à tout ce que tu racontes, ça c'est sûr, hein, parce qu'elle ne peut pas, voilà, et aussi cette loyauté vis-à-vis de sa lignée paternelle. Et en même temps, elle le fait quand même, quoi. Donc, c'est ça qui m'amuse.
Qu'est-ce que vous proposez comme formation ?
Alors, c'est plutôt une transformation qu'on propose. En fait, c'est des parcours dans le temps. Donc, pour le travail, c'est vraiment comment réintroduire le long terme dans le court terme et c'est quoi notre chemin de vie ? Qu'est-ce qu'on a apporté au monde ? Et comment ça s'insère ou pas dans notre travail actuel ? Et comment, même si ça ne s'insère pas, comment on peut vraiment apporter notre notion de capital humain ? Ensuite, c'est quoi le travail dans sa version visible, invisible ? Le corps humain, je vous fais très raccourci parce qu'elle m'a déjà dit qu'on n'avait plus de temps. Donc, corps humain, pareil. L'interaction entre les deux, là, on croit qu'on parle toutes les deux, mais en fait, on doit être 3000 à peu près entre votre transgénérationnel et le mien. Et je ne parle pas des autres personnes de la salle ou du salon. Comment gérer une entreprise comme ça ? Ça doit être juste impossible, en fait. Et puis, un projet à la fin. Et dynamique intégrative de santé, il y a 3 modules indépendants. Donc, un module Perfect Health, donc équilibre de santé globale selon Chopra. Un module mémoire systémique, donc d'entre ce qu'on a vécu, ce qu'on porte, quelle que soit la génération. Donc, au sein d'une même séance, en fait, je vous apprends à aller soit dans ce que vous avez vécu petite ou in utero, ou ce que vous portez de vos parents, grands-parents, où il y a 25 générations. Le corps, c'est tout, en fait, c'est ça qui est magnifique. Un module vraiment énergétique, voilà, toutes les mémoires qu'il y a dans nos auras. Ensuite, la combinaison des deux. Donc, faut forcément, les deux premiers modules sont indépendants, mais la combinaison des deux nous permet de chanter le mental et en même temps que le mental comprenne ce qui se passe pour fonctionner différemment. Et le quatrième, c'est la santé. Voilà, application vraiment à la santé, mais faut avoir fait, la santé, c'est le plus compliqué. Il faut avoir fait le reste avant. Et puis un module, évidemment, intuition, discernement, qui est plus court, qui est juste un module de 3 jours. Et puis, on propose à chaque fois des coachings intégratifs à raison d'une séance par mois. Mais comme dit mon propre médecin traitant, ton business model, il est nul, Catherine, parce que tu soignes les gens en 3 séances. Et voilà. Est-ce que j'ai encore 1 minute ou pas ? 2 minutes. Donc, je ne vais pas vous donner le nom de mon médecin traitant, mais j'ai quand même envie de vous raconter son histoire. Donc, l'an dernier, il y a 18 mois, il a eu un AVC, hémorragie cérébrale, 3 jours dans le coma. Donc, quand j'ai su ça, j'ai envoyé un SMS pour lui dire « je suis là pour toi si tu veux ». Donc, il m'accusait quand même il y a 4 ans de faire de l'exercice illégal de la médecine. J'ai dit non, je suis psychologue, je suis enregistrée, j'ai un aura délit, j'ai le droit de faire de la psychosomato. Donc, il bougonnait, il n'était pas très content. Et puis au bout d'un mois, il m'appelle, il me dit « Catherine, je suis à tel hôpital, dans telle chambre, je veux te voir, je me bats pour ne pas perdre mon membre inférieur. » Donc je pars avec mes ustensiles et j'arrive à l'hôpital de la PHP, on va taire le nom, et il était dans une chaise roulante en euros, donc il n'y avait pas que lui qui était amoché, et je l'écoute, il me dit, il me regardait comme dans les dessins animés de Tex Avery avec les yeux comme ça, sur sa chaise roulante. Donc je questionnais, en même temps, j'étais avec mes cristaux en train de lui trifouiller les auras comme ça. Et il me dit, mais t'es hallucinante, j'ai vu la psy de l'hôpital, elle m'a pas fait sortir 10% de ce que tu sors. Mais j'ai dit, c'est sûr, ce que je te demande, c'est pas que de la psycho. Bref, c'était un vendredi soir, dimanche, il se lève, il marche. Donc lundi, il m'appelle, Catherine, je veux te revoir. J'ai dit, ok, vendredi soir prochain, j'y retourne. 10 jours après, il est sorti de l'hôpital. 2 mois après, il était au cabinet de nouveau. Et voilà, il rebosse. Il a ralenti considérablement. C'est mon médecin traitant. Donc maintenant, il ne jure plus que par les énergies. Mais il ne veut pas me faire de témoignage écrit parce qu'il travaille encore. C'est pour ça que je ne donne pas son nom. Donc j'attends qu'il soit à la retraite pour écrire un livre avec lui. Merci.